Se sentir bien au travail commence par se sentir bien avec soi. Bienvenue dans Meilleur Allié. Je m'appelle Marie Legac, je suis coach professionnelle certifiée et j'aspire moi aussi à aimer mes journées de travail autant que ma vie à côté. Ici, je vous parle de mes outils et découvertes pour vous aider à concilier travail, sens et plaisir grâce à une relation complice et profonde avec vous-même. Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous annoncer que j'organise un webinaire en ligne le lundi 8 avril à 12h45 pour apprendre à respecter ses limites. Parfois, on se sent obligé de les taire ou de les dépasser parce que l'on souhaite, voire on aime, être une personne investie dans sa vie professionnelle. Pourtant, savoir respecter ses limites est une compétence fondamentale qui permet justement d'avoir du jus et de l'élan durablement. Je nous ai concocté un webinaire en deux temps. Un premier temps focus pour bien comprendre les mécanismes qui nous rendent les limites si difficiles à identifier, à exprimer et à respecter. Puis un exercice pratique pour mettre vos propres limites noir sur blanc et identifier votre levier numéro 1 pour mieux les respecter. J'ai imaginé ce moment comme la première étape d'un changement de fond, avec en ligne de mire de la clarté, de la prise de recul et plus de fidélité à soi-même. Donc s'il vous arrive de regretter d'avoir été parfois trop loin ou d'avoir accepté plus que vous ne le pouviez, alors je vous invite d'autant plus à me rejoindre le lundi 8 avril en ligne et toutes les infos sont dans la barre de description de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui s'appelle « Une histoire de limites et de téléphone portable ». Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent puisque je vais vous raconter une histoire vraie issue de ma vie professionnelle, une histoire que j'ai d'abord rédigée par écrit puisque c'est la première chronique que j'ai écrite sous un format que vous pouvez retrouver dans la barre de description de l'épisode. J'ai choisi ce format d'histoire car les histoires, quand elles sont écoutées attentivement, peuvent parfois résonner chez d'autres personnes, faire écho, miroir à des situations que vous rencontrez peut-être actuellement ou que vous avez rencontrées. Je vous laisse donc déterminer ce que vous aurez envie d'emporter avec vous de cette histoire. Il était une fois une histoire de limites franchies et de téléphone portable. Aujourd'hui, je vous raconte comment un craquage m'a appris à limiter ma disponibilité et comment je m'y prends concrètement pour le dire à ceux avec qui je travaille. Je vais commencer par l'élément déclencheur et par vous poser le contexte. Nous sommes en mai 2018 et je travaille à Paris au siège d'un groupe en pleine réorganisation. Je viens d'apprendre que je change de poste et que l'équipe projet dans laquelle j'étais et que j'aimais énormément n'existe plus. C'est très soudain et je perds de nombreux repères. Mais je n'ai pas le temps d'y penser parce que le rythme de travail est soutenu. Avec ma nouvelle équipe, on est en charge du séminaire de lancement de la toute nouvelle organisation, et ce dans un délai que je trouve très court. On a 150 collègues à embarquer dans cette nouvelle organisation sur un mode de team building alors qu'on est nous-mêmes déjà un peu perdus. Le samedi, juste avant le séminaire, je décide d'aller chez le coiffeur et je suis tellement épuisée que le coiffeur me coupe une mèche trop courte tellement je pique du nez. Et la veille du grand jour, on travaille assez tard et je rentre lessivée avant une courte nuit. Et c'est là que ça se passe. Parce que ma nouvelle N+2, qui est en déplacement, cherche à me joindre pour un détail de finalisation de l'événement. Et par un concours de circonstances, elle a obtenu mon numéro de téléphone personnel. Alors que j'ai pourtant un téléphone professionnel. Et quand je vois son SMS sur mon téléphone perso, je suis chez moi et c'est la goutte d'eau qui fait tout déborder. Je sais que c'est juste un SMS et qui plus est d'une personne que je trouve sympa, mais j'ai l'impression que ma N+2 vient de s'inviter dans mon salon pile au moment où je voulais reprendre mon souffle et en fait que c'est déjà trop tard pour fermer la porte. Elle est entrée. Et c'est une limite qui saute, une limite dont je n'avais même pas conscience. En fait, j'avais besoin de pouvoir couper quand je suis chez moi et j'ai l'impression qu'on me prive de ce droit malgré moi. C'est une protection de mon espace personnel qui a été franchie et je le vis mal. Et je comprends alors que je dois couper et c'est ce que je ferai ensuite pendant plusieurs semaines. Il a fallu un SMS de trop, une goutte de trop, pour que la limite saute et surtout que je voie la limite. À ce moment-là, le franchissement de cette limite pro-perso me révèle aussi qu'il y a d'autres limites derrière que j'ai franchies notamment en termes d'énergie que j'ai trop donnée, de surengagement dans le travail, et ça m'interroge vraiment sur mon rapport au travail de manière générale. Ce déclic, initié par une limite franchie, m'a incité à prendre d'abord quelques semaines de repos pour prendre du recul, et puis ensuite quelques mois pour réfléchir à ce que je voulais faire ensuite et à comment je voulais aborder la suite de ma vie professionnelle. Quelques mois plus tard, je change de travail et je démarre un nouveau job en Normandie, dans un environnement qui est radicalement différent. Au revoir Paris, au revoir les grands groupes, au revoir le poste de cadre, au revoir les équipes internationales. Au revoir à de nombreux avantages aussi, mais surtout bonjour à un nouveau job qui m'enthousiasme, proche de mes valeurs et d'une région de cœur. Donc me voilà dans ce nouvel environnement avec un nouveau chef que je vois assez peu, car il a aussi une autre entreprise à côté et on ne travaille pas au même endroit. Et dès les premiers jours, il m'écrit des SMS sur mon téléphone personnel en fin de journée. Au début, il veut juste s'assurer que ma prise de poste se passe bien. Et comme je n'ai pas d'ailleurs de téléphone professionnel, ça ne me dérange pas plus que ça, puisque je trouve en fait sa démarche plutôt attentionnée. Donc je réponds à ses SMS, parfois à ses appels, dans le train, qui me ramène chez moi, puisque j'habite encore à Paris à ce moment-là. Moi, je préférerais profiter de ce temps libre pour lire, mais je trouve que c'est important d'échanger régulièrement ensemble. Il est disponible en soirée, et donc je lui réponds à ce moment-là. Mais au fil des semaines, les SMS en soirée se multiplient, deviennent des passages de consignes, presque des réunions téléphoniques, jusqu'à recevoir parfois des SMS les week-ends et les jours fériés. Parce que lui, de son côté, dans son autre entreprise, il travaille ces jours-là. Et en fait, je commence à vivre cette situation comme un manque de respect. Mais cette fois, je vois la limite venir, je vois la limite se manifester. Et en fait, je sens cette tension qui monte en moi quand je vois son nom qui s'affiche sur mon écran et ses SMS qui me crispent, alors que pourtant j'aime énormément ce nouveau job. Je suis encore en période d'essai à ce moment-là, mais la nécessité de poser mes limites se manifeste clairement. Le problème, c'est que ça me semble incompatible de poser mes conditions alors que je démarre à peine. Je me dis d'abord que je dois faire mes preuves, que je dois gagner la confiance, mais au fond, je sais que si je veux que ça se passe bien dans la durée, je dois parler maintenant, bien avant la fin de la période d'essai. Alors, j'ai peur d'avoir cette discussion avec mon chef, je ne veux pas le vexer, je ne veux pas avoir l'air de manquer de motivation pour le poste, mais en fait, j'ai besoin de me respecter, et j'ai besoin de respecter ce besoin de déconnexion et de temps pour moi. Alors je cherche une solution, j'entends parler de la communication non violente et j'ai envie de m'en servir pour pouvoir dire les choses avec les formes. Mais en fait, c'est clairement pas si simple. Alors d'ailleurs, ceux qui suivent ce podcast le savent, j'ai l'habitude d'écrire dans mon carnet au quotidien et en fait, j'ai retrouvé le carnet d'écriture de ce mois de juin 2019 et j'ai écrit la chose suivante. J'essaye de trouver la bonne manière pour dire ces choses. J'aimerais être factuelle, objective, constructive et exprimer mes besoins à la manière de la communication non violente. Mais les mots dans ma tête et mes ressentis sont tout sauf non violents. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Alors pour le fond de mon message à transmettre, je réfléchis d'abord à mes besoins et à la situation qui me conviendrait mieux. Donc je commence par clarifier que j'ai surtout besoin de trois choses. J'ai besoin d'un téléphone professionnel et donc je cherche un forfait qui correspond à mes besoins. La deuxième chose, c'est que j'ai besoin d'avoir des horaires clairs auxquels je ne suis pas tenue d'être joignable. Et donc, je détermine que je souhaite ne pas pouvoir être joignable avant 9h, entre 12h45 et 13h30, soit ma pause déjeuner, et après 18h30. Et la troisième chose, c'est que je veux qu'on se mette d'accord sur ce qu'est une urgence et ce qui ne l'est pas. En fait, ce qui nécessite parfois de sortir un peu des règles, de s'autoriser à se joindre sur des temps plus personnels et ce qui ne mérite pas ou ce qui ne nécessite pas de le faire. Donc avec ces trois choses-là claires dans ma tête, je sollicite un rendez-vous avec mon chef pour lui en parler. Alors je précise que je ne vois pas ce rendez-vous comme un ultimatum, c'est plutôt comme un rendez-vous de mise au diapason pour accorder nos instruments. Voilà, je ne viens pas en lui disant c'est ça ou alors je romps la période d'essai, même si dans ma tête il est clair que j'ai besoin que mes limites soient respectées pour pouvoir rester et être sereine dans ce job. Donc, la théorie de la communication non violente, en fait, donc comment avoir une discussion non violente, ça se passe en 4 étapes. Donc, je vous donne la théorie et puis après, je vous parlerai de la pratique. La première étape, c'est l'observation. C'est de dire ce que j'observe de la situation, quels sont les faits, les circonstances de la situation. La deuxième étape, c'est de partager son sentiment, c'est de dire ce que l'on ressent par rapport à la situation. Troisième étape, c'est exprimer un besoin, c'est d'exprimer son besoin par rapport à la situation qui est vécue. Et la dernière étape, la quatrième, c'est de faire une demande, donc de proposer une solution. Et j'insiste sur le mot proposer, c'est pas exiger une solution ou exiger que la demande proposée soit acceptée, c'est proposer une solution pour pouvoir en discuter. La mise en pratique de la communication non violente dans ce cas-là avec mon chef, ça a ressemblé à ça. D'abord, je me suis préparée comme une bonne élève en prenant les quatre étapes de la communication non violente, en préparant ce que j'avais envie de dire, hein, parce que j'ai pas trouvé que c'était forcément très spontané comme manière de faire, mais voilà, je me suis prêtée au jeu. Et donc, je lui ai dit la chose suivante. Donc, d'abord, la partie observation. Je lui ai dit, voilà, actuellement, je constate que j'ai uniquement mon téléphone personnel pour être joignable en journée. Et j'ai aussi constaté que j'ai reçu plusieurs SMS de ta part les soirs, ces dernières semaines, au sujet des dossiers en cours. Deuxième étape, les sentiments. Et donc, je lui ai dit, voilà, en fait, en journée, je me sens déconcentrée par les notifications de mon téléphone perso, parce qu'en fait, je le garde allumé pour que tu puisses me joindre au cas où. Mais en fait, je reçois aussi d'autres notifications sur mon téléphone que les tiennes. Et en soirée, en fait, quand tu m'écris des SMS sur mon temps de repos, eh ben en fait, je me sens rappelée au travail, et ce qui m'empêche aussi de déconnecter ou d'utiliser mon téléphone personnel alors que j'aimerais aussi le garder allumé pour mes amis ou mes proches. Et en fait, ça m'agace et ça me fatigue. Troisième étape, besoin. En journée, j'ai besoin de concentration pour travailler. Et en fait, quand je quitte le bureau, là, par contre, j'ai besoin de déconnexion et de me consacrer à ma vie en dehors du travail sans recevoir de sollicitations professionnelles. Donc, en journée, j'ai besoin de concentration et le soir, j'ai besoin de déconnexion. Étape 4, demande. Donc, en fait, j'aimerais te proposer plusieurs choses. La première, c'est que j'aimerais savoir si l'entreprise pouvait me financer une ligne professionnelle. J'ai d'ailleurs trouvé un forfait à 10 euros par mois. Et voilà, j'ai trouvé aussi un téléphone de réemploi que je peux utiliser. Ensuite, je voudrais savoir si on pourrait trouver un accord sur les horaires auxquels je m'engage à être joignable et ceux auxquels ma ligne professionnelle sera éteinte. Et la dernière demande que je voudrais te faire, c'est que j'aimerais que l'on définisse ensemble le type de situation qui représente une urgence. Et bien sûr, dans le cas d'urgence, je veux bien être contactée sur mon téléphone personnel si c'est vraiment une situation d'urgence. Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, donc ça c'est ce avec quoi je suis venue pour parler à mon chef. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi, mais en fait ça s'est bien passé. Et je crois que ça s'est bien passé parce que j'ai accusé personne. Et j'ai pas eu à invoquer le droit du travail, même si j'avais en tête le droit à la déconnexion, parce que c'était pas ce type de discussion que je voulais avoir. Je voulais avoir une discussion en bonne intelligence. Et donc sa réponse a été la suivante, c'est qu'il n'avait jamais pensé à me proposer de ligne professionnelle parce que lui-même n'en a jamais eu besoin et il trouve même plus simple pour lui d'avoir une seule ligne qui réunit le pro et le perso. Et donc, il n'avait pas ni conscience, ni l'intention de m'empêcher de couper. Lui, son besoin, c'est de pouvoir m'envoyer des mails et des SMS le soir, car c'est le moment où il est disponible pour se poser. Et donc, on a trouvé cette solution-là ensemble, que mon futur téléphone pro sera éteint le soir et que je répondrai donc à ses messages le lendemain sur mes heures de travail. Et on calera des appels en journée pour discuter ou avancer sur des points du quotidien. Et on a défini aussi ensemble ce qui était une urgence, et en réalité, il y a assez peu de cas qui sont des urgences. J'ai compris que son comportement n'était pas contre mes limites, ni contre mes droits, mais en fait pour répondre à ses propres besoins. Il ne faisait pas les choses contre moi, il faisait les choses pour lui. La semaine suivante, j'avais déjà ma ligne professionnelle, et j'ai pu l'éteindre sans culpabilité ni retour de bâton. Et j'ai bien vu que ça m'avait soulagée de parler à mon chef de tout ce que j'avais sur le cœur avant de partir en week-end et avant que lui parte en vacances. Et en fait, rapidement, je me suis sentie beaucoup plus apaisée. Ce que j'ai envie de retenir de cette histoire, puisque dans toutes les histoires, il y a une morale, déjà, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes limites ni les mêmes besoins. Et donc, c'est déjà important de se les clarifier pour soi-même, aussi bien ses besoins que les limites concrètes qu'on a envie d'établir. Et en fait, pour les transmettre aux autres, mon bilan, c'est que la CNV, la communication non violente, est un excellent outil. Parce qu'en fait, savoir formuler des demandes respectueuses de soi et des autres, c'est une vraie compétence qui peut se muscler en la pratiquant. Au début, ça peut paraître un peu schématique, manquer un peu de naturel ou de spontanéité, mais en réalité, plus je le pratique et plus je trouve que ça rentre dans ma manière de communiquer avec les autres. Ce que j'ai compris aussi, c'est donc effectivement que les autres agissent pour eux et pas contre nous. D'un point de vue plus pratico-pratique, j'ai appris qu'une période d'essai est un bon moment pour que chacun s'ajuste à l'autre. C'est aussi à ça que ça sert les périodes d'essai. Et enfin, la morale que je retiens, c'est qu'on a beau aimer son job, vouloir s'y impliquer, on a aussi le droit de couper à 100% sans culpabiliser. Aujourd'hui, des années plus tard, les limites et les besoins dans la sphère professionnelle sont un sujet que j'ai tellement à cœur de pouvoir transmettre et aider à respecter que c'est un des sujets que j'aborde très régulièrement en coaching. Comme par exemple avec ma cliente qui était frustrée de ne pas réussir à concilier son besoin d'autonomie et d'apprentissage avec le besoin de contrôle, ou en tout cas le besoin d'être rassurée de son nouveau chef. Et donc oui, il y a des solutions. Et le premier pas, c'est toujours de prendre un temps de réflexion pour soi, par exemple en utilisant l'écriture expressive, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur le podcast, et ensuite de comprendre quels sont les besoins de chacun pour imaginer une manière, une stratégie d'y répondre, même si en apparence, au départ, peut-être, il semble contradictoire. Et j'ai envie de vous partager cette citation du père de la communication non violente, Marshall Rosenberg. Quand les autres savent que nous visons avant tout la qualité de la relation, la sincérité et l'empathie, et que nous croyons que ce cheminement aboutira à la satisfaction des besoins de chacun, ils peuvent accueillir nos requêtes en toute confiance, comme des demandes et non des exigences. Et je trouve que cette histoire illustre bien ça. Parfois, c'est plus difficile de faire accepter ses limites aux autres. Parfois, ça demande plus d'échanges. Parfois, l'autre n'est pas aussi ouvert à nos demandes. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, je trouve que c'est un bon point de départ de commencer par cette méthode. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager aujourd'hui à travers cette histoire qui est donc une histoire vraie. Au moment où j'ai essayé d'utiliser la communication non violente, je n'étais pas formée pour ça. Je n'avais pas lu des dizaines de livres sur ça. Et encore aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre, tellement c'est riche, la communication non violente. Mais il n'y a pas besoin d'être un expert ou une experte pour s'y essayer. Et donc, je vous encourage vivement à essayer, vous aussi, de votre côté, pour poser, ou en tout cas exprimer, les limites et les demandes que vous aimeriez pouvoir faire aux autres. Cette histoire s'est bien terminée puisque ça a été le début d'un chapitre professionnel très enthousiasmant et donc d'une période d'essai qui s'est avérée concluante. Et cette histoire a aussi été marquante dans mon histoire entre moi et moi puisque c'est très gratifiant, très rassurant de savoir que je suis capable de protéger mes besoins, faire respecter mes limites et que je peux compter sur moi pour ça. Et c'est pour ça que ça me semblait important de partager cette histoire aussi dans ce podcast Meilleur Allié, pour vous montrer à quoi ça ressemble dans la vie professionnelle d'être son ou sa meilleure alliée. J'espère que ce format sous forme d'histoire vous aura plu. Si vous avez envie de découvrir d'autres histoires, vous pouvez rejoindre les chroniques que je rédige et donc qui sont disponibles gratuitement. Il vous suffit de suivre le lien que j'ai mis en barre de description de l'épisode. Enfin, je vous rappelle que vous êtes chaleureusement invités à ce moment sympa slash webinaire que j'organise en ligne le lundi 8 avril à 12h45 pour apprendre à mettre des mots archi concrets sur vos limites et apprendre surtout à les respecter. À très bientôt dans le prochain épisode de Meilleur Allié.